On n'arrête pas le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, vous? Vous avez remarqué que c'est sarcastique, familier, souvent. On trouve déjà cette locution dans l'argot de San Antonio pour se moquer gentiment de l'innovation, de toutes ces évolutions qu'on maquille en révolution, mais qui n'en sont pas vraiment. Et je vais vous dire, la destinée de cette expression, c'est absolument passionnant. Parce qu'au départ, comme le rappelle le philosophe des sciences Étienne Klein, il n'y avait aucune ironie là-dedans. Ça témoignait d'une confiance dans le progrès. On ne l'arrête pas, le progrès, et c'est une bonne chose, parce que ce qui vient m'emplit de joie, d'excitation, d'espérance, c'est le progrès. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, on n'arrête pas le progrès? C'est tout le contraire. Quand ce n'est pas du second degré, on peut y voir littéralement l'expression d'une folle évolution. Le fait qu'il nous échappe, le progrès, et de plus en plus, le fait qu'il va plus vite que nous. On ne peut que le commenter avec une pointe d'amertume ou d'ironie, parce qu'on n'a aucune influence sur lui. En particulier en ce qui concerne la technologie, on n'arrête pas le progrès, c'est une amère constatation aujourd'hui. Et le fait qu'on s'en moque révèle une forme de servitude, de soumission, d'acceptation d'un mouvement de l'histoire qui s'est emballé. Tu parles d'un progrès.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle vision du progrès porte mon invité d'aujourd'hui? Il est l'un des plus grands réalisateurs britanniques. Depuis 5 décennies, il met en scène les limites, les dérives, les évolutions d'un capitalisme de plus en plus sauvage à travers la vie d'hommes et de femmes ordinaires. Sorry We Missed You, c'est le titre de son nouveau film en salle la semaine prochaine. Portrait d'une famille de travailleurs précaires luttant pour leur survie. Bonjour Ken Loach.
Bonjour, hello Gus. Very nice to see you.
Ravi de vous revoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, à qui profite le progrès pour vous?
Les
techniques, elles sont neutres. C'est celui qui les possède qui en tire profit. Et en ce moment, beaucoup de ce progrès, peut-être pas tout, parce qu'il y a des progrès scientifiques et médicaux qui bénéficient à tous, mais certains progrès, dans le domaine numérique en particulier, sont utilisés par les employeurs pour réduire la main-d'œuvre et exploiter davantage leurs derniers ouvriers.
Alors qu'est-ce que ce serait le progrès pour vous, Ken Loach? Ça passerait par quoi?
Le progrès, ça devrait être qu'on utilise nos connaissances et nos recherches pour améliorer la vie de tous.
Plus de droits sociaux.
Je crois qu'il faut un nouveau système économique. On ne peut pas maîtriser les choses tant que les grandes entreprises sont entre les mains d'intérêts privés qui possèdent les technologies et les utilisent pour exploiter les gens, en employant moins de monde et en tirant plus de profit de ce qui reste. Parce que c'est ça le business. C'est augmenter la part de profit par employé. Si nous le voulons, ce monde meilleur, il nous faut commencer par changer nos impératifs. Non plus le profit, mais la sécurité de l'emploi pour tous.
Dans ce film, Sorry We Missed You, vous racontez l'histoire d'une famille. La mère est aide-soignante, le père, après avoir enchaîné les petits boulots, devient chauffeur-livreur parce qu'il y voit l'opportunité de devenir son propre patron. C'est toute la problématique de l'ubérisation. Est-ce qu'il se trompe, cet homme?
C'est de la propagande. On lui parle de devenir le héros de la route, le maître de son propre destin. Rien n'est plus faux. Il est pied et poing lié à cette entreprise de livraison. Sans congé payé, sans indemnité de maladie, il doit payer son assurance, il doit fournir sa camionnette, il perd tout contrôle.
Au début de votre film, Ken Loach, il y a cette scène où votre personnage dit qu'il n'a jamais été au chômage et que c'est sa fierté. Qu'il a sa fierté, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit en fait?
Mais beaucoup de familles de la classe ouvrière, la majorité sans doute, sont fières de travailler. Elles sont fières de cotiser. Elles sont fières de leur indépendance financière. Les parents sont fiers de soutenir leurs enfants. Ils ne souhaitent dépendre de personne. Mon père, il avait cette fierté, absolument. Il a grandi pendant les années 30. La famine était courante. C'était le chômage de masse. Et oui, il était fier de toujours avoir été au travail.
Quel sentiment est-ce que c'est pour vous, la honte, Ken?
La honte, c'est de pouvoir montrer sa solidarité, de pouvoir soutenir les autres, de pouvoir faire partie d'une lutte collective et de renoncer à le faire.
C'est ça qui vous fait honte aujourd'hui?
C'est ce qui me ferait honte à moi, oui. Sachant qu'il y a des gens dans le besoin, de leur tourner le dos et de faire des choix dans mon propre intérêt alors qu'ils vont contre l'intérêt des autres. Ça me ferait honte.
Dans quelle mesure est-ce que faire des films, pour vous, c'est justement une façon de résister à cette honte aussi?
En fait, dans tous les moyens d'expression, il s'agit d'essayer de dire la vérité. d'essayer de comprendre le monde dans toute sa complexité et ses contradictions, sans avoir peur des contradictions, sans avoir peur de montrer des personnages de la classe ouvrière, pour vous donner un exemple, qui ne sont pas toujours des héros. Il faut montrer la complexité et essayer de révéler l'essence de ce que nous vivons et pourquoi nous vivons ainsi.
Montrer la complexité, c'est une chose, changer, c'est autre chose. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut changer le cours des choses avec un film ?
Un film, il peut prendre part au débat public. C'est une voix parmi d'autres dans la cacophonie générale, mais ça peut aider. Et parfois, un film arrive à s'adresser à l'imaginaire des gens. Et ça peut mener les gens à agir, peut-être à adhérer à un mouvement politique, à participer à quelque chose. Et ça, c'est positif.
Je vous pose la question parce que dans ce film, Sorry We Missed You, il n'y a pas beaucoup de place pour l'espoir. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui des raisons d'espérer, Ken Loach ?
Mais j'espère qu'il y a des raisons pour la colère. La colère, ça peut être fructueux. Ça peut être dangereux, car ça peut partir dans le mauvais sens. La colère peut mener à soutenir l'extrême droite. Mais la colère saine, c'est de dire « ceci est intolérable, et qu'est-ce qu'on fait alors pour en sortir ? » C'est une façon d'interpeller le public. Et je crois qu'on a beaucoup de raisons d'espérer. Tous ces gens qui viennent manifester contre les dangers du changement climatique, voilà une raison d'espérer. On a un grand parti de gauche maintenant en Grande-Bretagne, dirigé par Jeremy Corbyn. Et si nous gagnons une élection, ce sera une raison d'espérer. Les gens résistent toujours. Il faut seulement que cette résistance, elle soit correctement organisée et qu'elle n'arrive pas trop tard.
J'ai l'impression que la résistance chez vous, elle se fait aussi par les rapports humains, par le contact avec les autres dans votre cinéma.
Oui, c'est vrai. C'est montrer de vrais gens cernés par des systèmes qui les exploitent. Parce que tant qu'ils n'ont pas de visage, on s'en fiche de ce qui leur arrive. Mais si le film les identifie, s'ils sont comme des gens qu'on connaît, des voisins, des amis, comme des gens qu'on aime, alors c'est plus compliqué de tolérer leur asservissement.
Pourtant, dans votre film, prendre le temps de se parler, prendre le temps de s'occuper les uns des autres, ça devient de plus en plus difficile. Vos personnages n'ont plus de temps, j'ai l'impression, pour parler. Ils sont constamment pressés par le temps. Jusqu'à quand, Ken ?
C'est bien là le problème. Et vous mettez le doigt dessus. Toutes ces longues heures de travail. Les gens travaillent pour gagner un salaire, pour élever leurs enfants. Le système aujourd'hui empêche trop de gens d'accéder à ce luxe. Et c'est même pas un luxe, c'est un droit. On prive les gens de leur droit, le droit de passer du temps avec ses enfants après le travail, avant qu'ils aillent au lit, pour leur dire une histoire peut-être, pour leur parler. Les exigences du travail nie ce droit et empêche ces relations familiales. Ces gens sont détruits. C'est le propos de notre film. Ces gens sont détruits et nous devons arrêter ça.
Qu'est-ce que c'est le temps pour vous, Ken Loach ? Qu'est-ce que ça représente ?
Le temps quand vous avez 83 ans, vous ne le voyez pas de la même façon que quand on est jeune comme vous. Le temps devient précieux en vieillissant. Il prend de la valeur puisque vous en avez moins. Et vous réalisez que le temps qui est perdu, vous ne le retrouverez jamais. Et pour les personnages du film, ces années de parents où il faudrait profiter de ses enfants, passer du temps avec eux, les voir grandir, les regarder, les aider. Ce sont des années perdues.
De quel changement, de quelle révolution est-ce que vous rêvez, en fin de compte ?
Je crois que si vous ne voyez pas de changement venir, il vous faut être très pragmatique. Et le rêve n'est sans doute pas ce qui mène à la révolution. Il faut garder la tête sur les épaules, il faut être réaliste. Et ce n'est pas réaliste de penser qu'on peut faire sans une révolution, alors qu'on détruit notre planète. Voilà pourquoi il nous faut réfléchir avec réalisme à comment nous pouvons rassembler tous les gens qui, comme ceux du film, sont exploités, et les rassembler d'abord à travers l'Europe, et puis à travers le monde, pour dire que c'est intolérable. C'est une question d'organisation politique à travers les syndicats, les associations, tous ces rassemblements qui partagent les mêmes préoccupations et aspirations.
Celle qui ne rêve d'aucune révolution dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Ken, c'est la culture et son actualité statique, immobile, pour ne pas dire immobiliste. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 18 octobre ?
Il n'y a pas de grande architecture sans passion.
Levez les yeux, la quatrième édition des Journées Nationales de l'Architecture débute aujourd'hui dans toute la France et durera jusqu'à dimanche. Balades urbaines, ateliers pédagogiques, visites de bâtiments, près de 1000 événements sont au programme pour mettre en lumière le premier art. On pourra notamment écouter Dominique Perrault à Paris, visiter la Cité du Vin à Bordeaux ou opter pour l'expo La Folie des Grandeurs au Centre d'Architecture et d'Urbanisme de Lille. Archi cool, archi, vous l'avez hein.
Lissade, assemblée, jetée, soubresaut, piquée.
Rideau pour Alonso, légende cubaine du ballet. La danseuse et chorégraphe Alicia Alonso s'est éteinte hier. Elle avait 98 ans, connue pour ses interprétations flamboyantes de Gisèle, Carmen ou Coppelia. Elle était la seule danseuse latino-américaine de l'histoire à avoir été prima ballerina assoluta, titre honorifique suprême du ballet. Et ce, malgré le fait d'être devenue quasiment aveugle à l'âge de 20 ans. Respect.
Une épée résolument non létale qui ne tuera jamais personne. Les fibres optiques dessinent la devise qui est plus d'une langue, qui est une phrase de Derrida.
Cassin casse la baraque. La philosophe et philologue Barbara Cassin est officiellement devenue immortelle hier en devenant la 9e femme à entrer à l'Académie française. À la traditionnelle épée qui vient avec l'habit vert, Barbara Cassin a préféré un genre de sabre non létal et high-tech sur lesquels brillent les mots de Derrida, plus d'une langue, comme un écho à son discours dans lequel elle a appelé à célébrer la diversité des langues et à résister au formatage de la globalisation. Cœur avec les doigts, Barbara. I'm 50s. Ouf, c'est vendredi. Ah, on sourit, on bouge son body aussi, puisque dans les bacs, aujourd'hui, on lève les bras bien haut avec le retour des chevaliers de la transorientale d'acide arabe qui livrent leur hypnotique jdid. On écoute et on contemple le panorama, 7e opus délicat et élégant de l'incontournable Vincent Delerme. Et sinon, on voyage dans les âmes 50s du bon Souchon, entre tendre nostalgie et espièglerie d'aujourd'hui. On dit oui! Le cinéaste britannique Ken Loach, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour ce nouveau film, Sorry We Missed You, en salle la semaine prochaine. 3 ans après moi, Daniel Blake, qui était censé être votre dernier film. Ken, ne me dites pas que cette fois-ci, c'est vraiment le dernier.
J'en sais rien, en fait. Vous savez ce que les joueurs de foot disent, hein? On ne joue qu'un match à la fois. Et donc, j'en sais rien.
De quelle nécessité naît chez vous le désir de réaliser un film?
Le cinéma, c'est un moyen d'expression extraordinaire. C'est un privilège de faire un film que des spectateurs iront voir. Avec le scénariste Paul Laverty, on met des personnages à l'écran, on élabore une histoire, on sonde les rapports humains, on tente de trouver une justesse en montrant la vie des gens ensemble, que ce soit une mère, un père ou avec leurs enfants, les conflits qu'on rencontre, les difficultés, les moyens qu'on trouve pour les surmonter, quand on se fâche, quand on n'a pas le temps.
Ça commence par quoi ? Vous parliez de colère tout à l'heure, ça commence par la colère ?
Non, je ne suis pas dans la colère. Je ne me balade pas en donnant des coups de pied dans les meubles, non. Je ne suis pas dans la colère. Ça part d'une inquiétude, ça part d'une empathie, ça peut partir d'une blague, d'une idée comique. Ça part de l'idée que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a une injustice. Que tout ne va pas comme il faut. Ça, c'est le point de départ. On l'explore, on veut savoir comment ça se passe et l'histoire apparaît.
Quand est-ce que vous avez compris que votre vie serait consacrée au cinéma ?
J'ai eu la chance d'atterrir dans le cinéma après avoir fait de la télé. Je venais du théâtre quand j'étais jeune. J'ai dû être un des pires acteurs anglais, mais ça a été bref. On me donnait plus rien. Alors j'ai fait de la mise en scène de théâtre, et puis à la télévision. Et comme certains de nos téléfilms ont été remarqués, on m'a proposé de faire un film pour le cinéma. Et le cinéma, c'est le plus fantastique des moyens d'expression.
Mais il paraît qu'au tout départ, vous vous destiniez à une carrière d'avocat. Pourquoi le droit ?
Je ne sais plus. J'ai pensé que le droit me mènerait à un boulot honnête. Et j'aimais bien l'idée de travailler dans un tribunal. Mais j'ai peur de ne pas avoir été un étudiant assidu. J'ai passé toutes mes études à faire du théâtre.
Ça représentait quelque chose aussi pour vos parents, peut-être, le droit ?
Mon père, oui, voulait que je sois avocat. Il venait d'une famille de 10 enfants qui avaient presque tous fini à la mine de charbon. Et mon père, il avait réussi l'examen pour continuer l'école à l'âge de 11 ans, mais sa mère lui avait annoncé que c'était impossible parce qu'elle n'avait pas de quoi payer l'uniforme. Il a dû quitter l'école, il est devenu électricien. Et toute sa vie, il a voulu que j'étudie. Il était ravi que je fasse du droit. Il était furax quand j'ai arrêté.
Mais vous, Ken Loach, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes entré à Oxford et que vous avez découvert un milieu social qui n'avait rien à voir avec votre milieu d'origine ?
Ça a été une expérience intéressante, parce que moi je viens d'une petite ville industrielle dans les Midlands, où on a à peine une classe moyenne et pas beaucoup de richesses. Et de me trouver avec des gens de mon âge, dotés d'une fortune que je ne connaissais que dans les livres, c'était extraordinaire. Avec leurs voitures, leurs vêtements chics, et clairement beaucoup de fric. Ça a été un choc.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir à cette époque, du haut de vos 20 ans, l'avenir de l'Angleterre ?
Quand j'avais 20 ans, c'était au milieu des années 50. C'était peu après la guerre. Et la société avait changé. On avait l'État-providence. Les services publics étaient très développés. Les mines de charbon, les aciéries, les chemins de fer, les services de gaz, d'électricité, d'eau courante, la poste, tout cela appartenait à tous. On avait un service de santé que le monde nous enviait. Une sécurité sociale, des retraites, un bon système d'éducation. Tout cela pour le bien commun. Nous travaillions tous pour le bien commun. On avait l'amour de ça. Et puis tout a été détruit par Thatcher dès son élection en 79. Et maintenant, cela fait 40 ans qu'on se bat, mais aujourd'hui, les inégalités, la pauvreté, la faim, les sans-abri, les maladies sont de nouveau d'actualité.
Aujourd'hui, à l'heure notamment des incertitudes liées au Brexit, un jeune de 20 ans qui grandit dans une ville moyenne en Angleterre, à votre avis, comment il le voit, l'avenir ?
Ce jeune-là, pour moi, il est paumé. Il sait qu'on l'exploite, il sait qu'on le trompe. Mais par qui, c'est pas clair. Les gens qui se mettent en avant pour gagner ses suffrages sont ceux qui le trompent, bien sûr. Mais personne ne le dit. Je crois qu'on a un choix qui se présente en ce moment qui est très fort. Soit l'avenir de l'aile droite, incarné par Boris Johnson, dont vous avez entendu parler, et dont vous devez rire, j'en suis sûr, mais derrière ce rire, il y a de la peur. Il y a l'avenir tel qu'il le propose, qui est un redoublement de tout ce que nous avons déjà. Plus de tensions, plus d'inégalités. Et puis, il y a l'avenir proposé par notre parti de gauche, dirigé par Jeremy Corbyn, qui n'est pas parfait. Mais si jamais on gagne, on pourra faire de grands changements dans l'intérêt de ce jeune de 20 ans qui vit dans cette petite ville des Midlands.
Pourquoi je vous pose la question ? Parce que l'histoire que vous racontez, c'est aussi celle d'un conflit entre deux générations. Ken Loach, celle du père qui se tue à la tâche mais qui continue à croire dans les vertus du travail, et puis celle d'un fils qui a compris que le système était à bout de souffle. Et quel regard est-ce que vous portez, vous, sur la jeunesse de votre pays aujourd'hui ?
Les jeunes, ils ont bien conscience qu'on les trompe. Et le garçon dans le film, qui doit avoir 16 ans, il voit bien ses aînés de 2 ans qui sont étudiants à l'université et qui croulent sous des dettes de 50 000 livres. Ça fait presque 60 000 euros. C'est colossal. Voilà ce qu'on leur inflige aujourd'hui. Et s'il y a du travail pour eux, ce sont toujours des petits boulots. Comme vous le dites, c'est l'ubérisation du travail. Il n'y a aucune sécurité. Ils ne peuvent rien prévoir. Et oui, ça encourage un certain cynisme, une apathie et une colère. Et c'est notre devoir, notre défi, nous qui sommes de la génération d'avant, de leur préparer un avenir meilleur que ça.
Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, Ken Loach, est-ce que vous choisiriez encore de faire du cinéma ?
C'est très difficile de faire le choix de ce métier. Parce que combien y a-t-il de réalisateurs qui travaillent ? Pour vous donner qu'un seul exemple, il y a 120 000 enfants au Royaume-Uni qui vivent dans un logement provisoire car ils sont SDF. Et combien de cinéastes anglais pouvez-vous nommer ? Quoi ? 30 ? 40 ?
Vous vous sentez privilégié ?
C'est rien. Et oui, on est infiniment privilégié. Comment peut-on choisir de faire ce métier ? C'est que de la chance. Pour moi, ça n'était que du hasard.
Pour autant, cette fortune, cette chance, elle vous permet d'aller vers les autres. Elle vous permet, vous le disiez, de résister.
Oui, mais dire que les réalisateurs résistent, franchement, on est tellement privilégié. C'est pas nous qui résistons. On fait partie d'un mouvement. Et d'aider ce mouvement à décoller, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais il ne faut pas exagérer notre rôle.
On va reparler de ces actions, de ces mouvements, de cinéma et de combat d'Angleterre aussi, juste après. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. C'était en 1965. Vous êtes sur France Inter avec Ken Loach. Vous écoutez Boomerang.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy. Sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. That's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est un drôle d'oiseau, hein, quelque part entre le petit poussin ébouriffé, puis Archimède, la petite chouette, vous vous souvenez de Merlin l'Enchanteur, avec son regard mobile, cette façon de vous dévisager, son apparente fragilité, on le sent vibrant, passionné, assoiffé de justice. Il a le cheveu blanc, le sourire franc, la danse scène, avec sa petite chemise bleue et ses grandes lunettes. Ce matin, le réalisateur britannique Ken Loach, invité de Boomerang pour Sorry We Missed You en salle mercredi, l'histoire d'un couple de travailleurs précaires, on le disait, qui se battent pour joindre les deux bouts. Et à votre façon, j'ai l'impression que vous en faites des héros, Ken. Qu'est-ce que c'est un héros pour vous?
C'est difficile comme question, parce que nous, on ne les considère jamais comme des héros. Ces personnages, ils incarnent d'abord des contradictions. C'est ça qui nous intéresse. Dans toute fiction, il faut des personnages qui ne soient pas simplistes, qui portent un dilemme intérieur et des questions irrésolues. Et Ricky, c'est quelqu'un qui veut désespérément travailler, mais c'est quelqu'un que son travail détruit. Et son épouse, c'est une femme pleine de bienveillance. Ça se voit à son visage, ça se voit dans ce qu'elle fait. Mais l'attention qu'elle porte aux autres dans son travail l'empêche de s'occuper de ses enfants. Chaque personnage porte ses contradictions.
Peut-être qu'un héros peut être fragile, non ?
Oui, il lui faut une fragilité, mais une force aussi par ailleurs.
Petit, quels étaient vos héros ?
Quand j'étais môme, c'était des joueurs de cricket ou des footballeurs. Pas des hommes politiques. Les héros, vous savez, vous connaissez, il y a une citation de Brecht, un de ces personnages qui dit « Malheureux le pays qui n'a pas de héros ». Et l'autre répond « Malheureux le pays qui a besoin d'un héros ». Et moi, ça a toujours été mon sentiment. Il nous faut une direction collective. Il nous faut des dirigeants qui travaillent ensemble, pas un grand homme ou une grande femme.
Parce qu'il n'y avait pas de héros des classes ouvrières ?
Moi, je peux vous citer plein de héros de la classe ouvrière, mais ils sont tous inconnus. Les héros de la classe ouvrière, ils sont anonymes. Ce sont ceux qui prennent la direction d'une grève, qui disent « Non, je n'accepte pas que vous exploitiez telle personne à cause de la couleur de sa peau, de sa religion. Je suis solidaire de ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades ou victimes d'un accident ou vulnérables. Ces héros-là, vous n'en entendrez jamais parler. »
Oui, c'est ça qui me frappe, moi, dans votre cinéma et en particulier dans ce film, ces manières dont vous montrez leurs visages, leurs corps, des visages et des corps qui, sous l'effet de la fatigue, de la détresse, semblent se transformer. Comment on fait pour saisir l'épuisement, par exemple, qui s'installe sur un visage ?
Après le scénario, parce que c'est le scénario qui est le plus important, et c'est dans le scénario qu'il y a un récit et des personnages qui vont vivre ce dont vous parlez. Ça, c'est dans l'écriture. Après le scénario, le plus important, c'est de trouver les gens qui puissent vraiment lui donner vie et qui ont ces émotions en eux et qui peuvent les incarner. Et la troisième chose, c'est qu'on tourne l'histoire chronologiquement. Et quand il y a une surprise, on filme cette surprise. Les acteurs vivent autant que possible. Ils savent que c'est une fiction, hein, mais ils vivent le cheminement émotionnel de leur personnage. Et nous fixons ça sur la pellicule.
Et comment est-ce que vous choisissez les visages de ceux ou celles que vous décidez de filmer ?
C'est long comme processus. Nous voyons le plus de gens possible. On fait une première sélection et on forme des petits groupes pour faire des petites impros qui dévoilent leur champ émotionnel.
Leur beauté aussi.
Il faut travailler avec les gens. On ne peut pas savoir avant de les mettre dans la situation, pas la situation du film. Ça, on ne la dévoile pas, mais une situation comparable.
Quand est-ce que vous avez découvert Ken Loach, la force d'un visage sur un écran de cinéma?
Ça va être compliqué de vous dire. En voyant des documentaires, en fait. Pas en voyant des fictions, mais en regardant des documentaires. Parce que là, on y voit la vraie personne qui traverse une situation difficile. Ou une vraie personne qui est si marrante que vous en tombez de votre siège. C'est en voyant la vraie vie, en fait.
Des documentaires que vous avez vus au cinéma ou à la télévision?
C'est au théâtre que j'ai découvert ce que c'est qu'un grand interprète. Mais ces documentaires, je les ai vus à la télévision.
Quel lieu est-ce que c'est la salle de cinéma pour vous ?
Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'horreur. Si vous vous retrouvez dans une salle qui encourage les spectateurs à manger et à boire pendant le film.
Ne me dites pas que vous êtes contre le pop-corn, Ken.
Non, mais pas pendant qu'on écoute le film. Le popcorn, ça fait un bruit dont j'ai envie de me passer. Une bonne salle, elle a des fauteuils pas trop mous, dans lesquels vous ne sombrez pas complètement. Des fauteuils confortables, mais pas trop confortables. C'est une salle de 200 places, avec une bonne projection, un son fort, mais pas trop, et il n'y a rien à manger. Les gens y viennent pour le film, pas pour calmer les gosses.
Elle a encore un rôle, la salle de cinéma, aujourd'hui, dans l'Angleterre dans laquelle vous vivez.
C'est une bataille, parce que les multiplexes tuent cette salle de cinéma-là, parce qu'ils font plus de bénéfices avec la confiserie qu'avec les films, hein, franchement. C'est un vrai problème. Les salles indépendantes, elles sont bien, mais elles se font reprendre par les chaînes. Et pour les indépendants, c'est difficile. Il faut se battre.
Mais dans ce contexte, comment est-ce que votre cinéma est-il perçu en Grande-Bretagne ?
D'habitude, on sort dans les salles arrêt essai. Et pour le dernier film, Daniel Blake, on est passé dans les multiplexes. Et ça a bien marché. Comment nos films sont perçus ? Comme une bizarrerie, en fait. Les gens y parlent sans accent américain. Ce sont des personnages qu'on voit peu au cinéma. C'est perçu comme une curiosité, je pense.
On va pas se mentir, Ken Loach. Votre film, vos palmes d'or, votre immense carrière n'est pas récompensée par suffisamment d'entrées dans votre pays ici. Comment faire pour qu'un cinéma comme le vôtre soit vu, qu'une parole comme la vôtre soit entendue ?
Il nous suffit d'avoir un bon distributeur, je crois, c'est le cas en ce moment. La question, et vous avez raison, c'est où trouve-t-on le cinéma qui parle de nos vies contemporaines et qui nous en renvoie le reflet ? Où est-il ? Le cinéma est surtout utilisé aujourd'hui pour manufacturer des produits qui sont l'équivalent du fast-food dans l'alimentation. Et voilà le problème. Ces films rabaissent le cinéma s'ils ne s'attachent pas avec force à retranscrire la vie de nos contemporains à l'écran. Moi, je crois que la vie que nous vivons mérite d'être célébrée, interrogée, comprise et transmise par les histoires que nous racontons. Et quand cela arrive, c'est magnifique. Mais le cinéma se rétrécit. Il tend à oublier cette fonction, et c'est tragique.
On parlait de progrès tout à l'heure. J'ai l'impression que votre vision du progrès va de pair avec une défense des arts et de la culture.
Absolument. L'art et la culture sont devenus des marchandises qu'on quantifie selon leurs valeurs commerciales. Ça devrait être un échange ouvert entre les artistes de tous bords, peintres, musiciens, dramaturges, auteurs, poètes, ce que vous voulez. Et tous ceux qui ont envie de dialoguer. Parce que tout le monde a un regard. C'est un échange culturel par lequel nous apprenons qui nous sommes et pourquoi nous sommes ainsi. Et nous ouvrons de nouveaux horizons à notre imaginaire et à nos espoirs. Tout ça en est réduit à des produits qu'on achète. Ce grand dialogue ouvert, il reste à imaginer.
Merci infiniment, Ken Loach, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Sorry We Missed You, avec les très beaux Chris Hitchin, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, sort mercredi. C'est un grand film, puissant, nécessaire. Merci à votre interprète ce matin aussi, le très loachien Harold Manning, ainsi qu'à toute l'équipe de Boomerang, les merveilleuses et merveilleux Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Biot, Pierre Martinery et Joséphine Dumoulin. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Merci, merci.
Film noir sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia. Ça va Sonia ?
Oui, c'est brûlant aussi. Salut Augustin.
À lundi.
À lundi.